VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 7 septembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
25 000 Centrafricains se sont réfugiés en République démocratique du Congo pour échapper à de récentes violences chez eux.
Au Gabon, trois militants de l'opposition ont été écroués et plusieurs autres entendus par la police.
L'activiste français d'origine béninoise, Kémi Séba, a fait l'objet hier d'une décision d'expulsion du Sénégal.
L'OIM a procédé au rapatriement volontaire par avion de 132 migrants guinéens de Libye.
L'ouragan Irma frôle Porto Rico après avoir ravagé les îles de Saint-Martin et de Barbuda.
Nous allons voir ce qui va se passer, la réponse du président Donald Trump à une question sur une éventuelle action militaire contre la Corée du Nord.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Quelques 25 000 personnes ont fui de récentes violences en Centrafrique. Ces personnes se sont réfugiées dans une zone isolée du nord de la République démocratique du Congo, a indiqué mercredi un responsable humanitaire des Nations Unies. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Ces réfugiés se trouvent dans un endroit vide de toute autorité. Il n'y a pas de réseau, pas de route, a expliqué à l'AFP Joseph Nganji, directeur pour la Centrafrique du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires OCHA. Ils ont fui des affrontements entre des groupes armés non identifiés début septembre à Zemio, à quelques 733 kilomètres à vol d'oiseau au sud-est de la capitale Bangui sur la frontière avec la RDC. Zemio avait déjà été frappé par les violences en juin et en août, provoquant des morts et une première vague de déplacés internes. Le responsable d'OCHA affirme avoir tout le matériel et les équipes prêts à intervenir sur Zemio, mais il n'y a pas la sécurité nécessaire pour les équipes humanitaires. En juillet, la plupart des ONG ont suspendu leurs activités en raison du climat sécuritaire. La moitié de la population centrafricaine dépend de l'aide humanitaire selon les Nations Unies. La Centrafrique subit depuis plusieurs mois une recrudescence d'affrontements entre groupes armés avec en ligne de mire le contrôle des ressources naturelles et des zones d'influence.
Au Gabon, trois militants de l'opposition ont été écroués et plusieurs autres opposants au président Ali Bongo Ondimba étaient toujours entendus hier par la police. Selon l'AFP, qui cite leur avocat, les trois militants pro-Jinping seront jugés le 18 septembre. Ils avaient été interpellés samedi alors qu'ils distribuaient des tracts annonçant une réunion publique dans un collège privé. Cette réunion qui était prévue pour lundi n'a pas eu lieu, la police ayant bloqué l'entrée de l'établissement pour puis disperser un rassemblement de quelques 300 personnes avec des gaz lacrymogènes.
L'activiste français d'origine béninoise Kémi Séba, qui avait brûlé publiquement un billet de 5000 francs CFA pour protester contre la Françafrique, a fait l'objet hier d'une décision d'expulsion du Sénégal. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le gouvernement sénégalais a estimé que la présence sur son territoire d'Estélio Jules Robert Capo Chichi, alias Kémi Séba, constitue une menace grave pour l'ordre public. Il est aussi reproché à Séba ses propos désobligeants contre des chefs d'État, selon le communiqué du ministère sénégalais de l'Intérieur. Maître Kouraïssi Ba, l'un des avocats de Kémi Séba, a dénoncé cette expulsion qu'il qualifie d'illégale. Il dit avoir introduit un recours suspensif de cette décision. Après avoir passé 5 jours en détention préventive, Kémi Séba et un membre de son mouvement Urgence panafricaniste ont été relaxés le 29 août par la justice sénégalaise. Le parquet de Dakar a fait appel de ce jugement et M. Séba devait être rejugé à une date qui n'a pas été indiquée. Kémi Séba, installé au Sénégal après plusieurs démêlés judiciaires en France, mène depuis quelques années une lutte contre le franc CFA. Il estime que cette monnaie avantage la France et nuit aux intérêts des 14 pays africains où elle est utilisée. En France, Kémi Séba a dirigé la tribu K, groupuscule dissous en 2006 pour antisémitisme et incitation à la haine raciale.
L'Organisation internationale pour les migrations a procédé mardi au rapatriement volontaire par avion de 132 migrants guinéens de Libye, a annoncé hier l'organisme onusien à Conakry. Ce vol est le 7e organisé par l'OIM depuis le début de l'année. pour des migrants guinéens en provenance de Libye. Les six premiers avaient rapatrié 727 personnes. Ils s'ajoutent au retour d'autres ressortissants guinéens en provenance du Bénin, du Cameroun, d'Égypte, du Maroc ou encore du Niger, ayant également échoué dans leur parcours migratoire.
Le président nigérian Muhammadu Buhari va-t-il se retirer du pouvoir après son premier mandat? La question se pose après les propos tenus ce mercredi par la ministre de la Condition féminine, Aïcha Al-Hassan. Elle a confié à nos confrères de Reuters que le président Buhari avait promis, avant même son élection, de s'en aller en 2019, Bagassi Koura.
À en croire, Aïcha Al-Hassan Buhari aurait déclaré aux membres de son parti avant son élection qu'il ne briguerait qu'un seul mandat, ce qui sous-entendait à l'époque qu'il n'avait pas l'intention de se représenter en 2019. Ces propos de la ministre de la Condition féminine pourraient raviver le débat sur le futur politique du président nigérien. Buhari, sous son 14 ans, a été élu en 2015, mais il a été absent pendant une grande partie de cette année. Pour des raisons médicales, il doit se prononcer s'il va briguer un second mandat. La ministre Al-Hassan menace de démissionner si Buhari est candidat à sa propre succession l'an prochain, préférant soutenir dans ce cas l'ancien vice-président Atiku Abubakar si celui-ci est candidat. Selon Reuters, les deux porte-parole du président ont refusé de commenter les propos de la ministre.
En Angola, la Commission nationale électorale a confirmé hier soir la large victoire obtenue par le MPLA au pouvoir depuis 42 ans lors des élections générales du 23 août, victoire aussitôt contestée par les partis de l'opposition. Le candidat du MPLA, l'ex-ministre de la Défense João Lourenço, 63 ans, sera donc investi le 25 septembre. Président de la République, il succédera à José Eduardo dos Santos, 75 ans, qui prend sa retraite après un règne sans partage de 38 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Corée du Nord, le président américain Donald Trump a répondu hier par un « nous allons voir ce qui va se passer » à la question d'un journaliste qui lui demandait s'il envisageait une action militaire contre Pyongyang. Il parlait à la Maison-Blanche après une conversation téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping. À un collègue de la Voix de l'Amérique qui voulait savoir la teneur de cette conversation, M. Trump a déclaré que le président Xi aimerait faire quelque chose au sujet de la Corée du Nord, mais qu'il n'était pas clair s'il pouvait le faire ou non. Il a ajouté que c'était un échange, je cite, « très très franc et très fort ». Toujours selon le président américain, il y a eu accord total sur les récentes provocations de Pyongyang avec le leader chinois, qui n'aime pas voir non plus ce qui se passe là-bas.
Facebook a annoncé hier qu'une enquête interne avait révélé que des milliers de publicités politiques avaient été achetées sur sa plateforme par de faux comptes et pages vraisemblablement liées à la Russie, ce qui a renforcé les préoccupations ici aux États-Unis quant à l'ingérence de Moscou dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Selon Facebook, bien que ces publicités n'aient mentionné directement ni l'élection ni les candidats eux-mêmes, elles tendaient largement à promouvoir des questions sociales qui divisent, telles que l'immigration, les relations raciales et le contrôle des armes à feu. Ces faux comptes viendraient d'une organisation basée à Saint-Pétersbourg, en Russie, et connue pour véhiculer des positions pro-russes.
Un sénateur américain poursuivi pour corruption, le procès du démocrate Robert Menendez, élu de l'État du New Jersey, a commencé hier près de New York. Cette saga judiciaire pourrait durer 2 mois, Eric Manirakidza.
Le parquet a retenu 14 chefs d'accusation contre Menendez. Les procureurs fédéraux accusent le sénateur démocrate d'avoir utilisé sa fonction pour défendre les intérêts d'un riche ami entre 2006 et 2013. Robert Menendez aurait bénéficié de nombreux vols gratuits en jet privé du prêt d'une villa en République dominicaine de 3 nuits dans l'hôtel de luxe Park Hyatt Paris Vendôme, de repas, de parties de golf et de plus de 750 000 dollars de dons de campagne. En échange, M. Menendez aurait aidé un homme d'affaires de Floride, Salmon Melgen, dans l'attribution d'un contrat de marchandises par les douanes de la République dominicaine et dans l'obtention de visas américains pour les petites amies de cet homme d'affaires, sans oublier le règlement d'un contentieux avec le ministère de la Santé américain. À son arrivée au tribunal fédéral de Newark, le sénateur Menendez a déclaré qu'il n'a jamais déshonoré sa fonction. En cas de condamnation, il risquait la prison et perdrait son siège de sénateur. Il reviendrait alors au gouverneur républicain du New Jersey, Chris Christie, de nommer un successeur. Ceci pourrait avoir des conséquences politiques importantes dans les rangs des démocrates au niveau de l'actuelle répartition du Sénat si un républicain remplaçait Menendez.
Ouragan Irma, mer déchaînée, toits arrachés, bateaux projetés sur les routes, l'ouragan a totalement dévasté l'île de Barbuda et ravagé l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin, faisant 7 morts. À Porto Rico, plus de la moitié des 3 millions d'habitants sont désormais sans électricité et des rivières sont sorties de leur lit dans le centre et le nord de l'île. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho. Blanche Sam.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé mercredi à Abidjan que son pays consacrera 10% du budget de l'État au secteur agricole, soit 600 milliards de francs CFA, conformément aux accords de Maputo. Dans son discours à l'ouverture de la 7e édition du Forum sur la Révolution verte en Afrique. Selon APA News, le chef de l'État ivoirien a invité les organismes et institutions internationaux à financer les investissements agricoles sur le continent et particulièrement la chancelière allemande à mettre en place le plan Merkel pour une révolution verte en Afrique. Objectif, nourrir les populations, mais également porter la croissance et favoriser la stabilité. Au Cameroun, le gouvernement a attribué 75 milliards de francs CFA pour le développement de l'agrobusiness. Cofinancée avec la Banque africaine de développement, la BAD, cette enveloppe a été débloquée pour l'exécution du projet de développement des chaînes de valeur agricole, notamment la modernisation de la culture de la banane plantain, du palmier à huile et de l'ananas à travers le territoire national. Ce projet d'une durée de 5 ans a pour objectif d'assurer la sécurité alimentaire à travers ses filières en apportant des appuis financiers et techniques aux organisations paysannes et aux jeunes intéressés par l'agrobusiness.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On reparle du match Sénégal-Afrique du Sud qui avait fait tant de bruit en novembre dernier.
Eh oui, la FIFA qui a décidé de faire rejouer le match de qualification mondiale 2018. Il avait été remporté, souvenez-vous, par l'Afrique du Sud à domicile contre le Sénégal. C'était en novembre dernier. Une victoire 2-1 grâce à un pénalty imaginaire qui avait été sifflé par un arbitre. Eh bien, la FIFA a suspendu à vie cet arbitre pour manipulation de match. L'arbitre avait été suspendu, il avait été reconnu coupable d'influence illégale sur le résultat de ce match. Le match va donc être rejoué en novembre prochain. Il offrira une occasion unique pour les Lions de la Teranga de prendre la première place du groupe. Les Lions de la Teranga qui sont actuellement troisième derrière le Burkina Faso et le Cap-Vert. Eh bien, une victoire leur permettrait de repasser devant ces deux équipes. On rappelle, Idrissa, que seul le premier de chaque groupe est qualifié pour le Mondial.
Coupe du Monde 2018, l'Argentine se complique la tâche.
Eh oui, un match nul un but partout contre le Venezuela à Buenos Aires. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. À l'issue de cette 16e journée, le Brésil déjà qualifié largement en tête du tournoi de qualification devant l'Uruguay, la Colombie et le surprenant Pérou. Les quatre premières équipes sont directement qualifiées. La cinquième de la zone absude, actuellement l'Argentine, jouera un match de barrage contre la Nouvelle-Zélande, qualifiée de la zone Océanie.
Les Américains aussi ont peiné.
Eh oui, les Américains ont rétrogradé à la quatrième place de la zone CONCACAF après leur match nul arraché de justesse contre le Honduras, un but partout. Le quatrième du groupe participera à un barrage aller-retour contre le cinquième des qualifications de la zone Asie. Le Costa Rica, lui, s'est un peu plus rapproché du mondial en faisant un match nul un partout face au Mexique.
Vers un marché des transferts plus courts en Europe.
Et le président de l'UEFA, Alexander Seferin, soutient le projet de la Première Ligue visant à raccourcir la durée du mercato d'été pour empêcher les joueurs d'être transférés après la reprise du championnat anglais.
Tennis, Rafael Nadal fonce vers les demi-finales de l'US Open.
Et oui, le numéro 1 mondial, l'Espagnol Rafael Nadal, s'est facilement qualifié pour les demi-finales en battant le Russe Andrei Rublev, 53e joueur mondial. Le score 6-1, 6-2, 6-2. Nadal, 31 ans, n'avait plus atteint le dernier carré de l'US Open depuis 2013, date de son deuxième titre dans le tournoi new-yorkais.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, des milliers de personnes sont descendues dans la rue, dans une dizaine de villes, à l'appel de l'opposition qui réclame un retour à la constitution de 1992. Le gouvernement, dans un geste considéré comme une concession, a annoncé son intention de restaurer la limitation du nombre de mandats présidentiels. Reportage à Lomé de Kay Lawson.
La rue grogne à Lomé. Des manifestants sont visibles sur plusieurs kilomètres. Les leaders, militants et sympathisants de l'opposition togolaise exigent dans la rue le retour à la constitution de 1992. Sur les lèvres, retentissent le mot changement. Pour ces Togolais, changement rime avec alternance.
On est fatigué, on veut changement. Changement, pourquoi? 50 ans, c'est trop. Au Bénin, il y a changement. Au Burkina, il y a changement. Au Ghana, il y a changement. On est fatigué au Togo. 50 ans, c'est trop. S'il n'y a pas changement, on va toujours sortir.
Si la famille des forts était au pouvoir, et je vais mourir, ils sont toujours au pouvoir, ce n'est pas bien. On veut l'alternance politique.
Il faut faire un bail que nous sommes en train de revendiquer la constitution de 1992 et le vote de la diaspora.
Sur les pancartes, on peut lire « La dictature se nourrit du silence et de l'inactivité. 50 ans, ça suffit » ou encore « Retour à la constitution de 1992 et vote de la diaspora ». On ne nous a pas donné de l'argent, nous sommes venus de notre propre gré, scandent ces manifestants. Ce qui réconforte les leaders qui appellent le pouvoir à écouter la rue. Maître Dodia Pévon, président des Forces démocratiques pour la République, FDR.
Nous sommes dans la rue. Je crois que le pouvoir comprendra le message. Et si le pouvoir comprend et revient de meilleurs sentiments pour que les réformes se passent dans la paix, on ne peut pas tout le temps retourner à bon cette fois-ci. Lorsqu'ils vont vouloir faire les choses, il faut qu'ils le fassent pour qu'on sache qu'on a obtenu les réformes. Ce n'est pas juste des promesses qu'ils vont nous faire. On dit, ah, on va faire ça et puis on va reculer. On restera mobilisé jusqu'à l'obtention réelle et concrète de ce que nous demandons.
Ce même mercredi, les associations qui soutiennent le président Fornia Singbe ont tenu un meeting pour, disent-elles, réaffirmer leur attachement aux valeurs de paix. Boniface Essokassi, l'un des organisateurs.
Nous voulons la paix dans ce pays. Nous n'avons jamais refusé les réformes. Nous voulons les réformes. Nous voulons qu'on fasse ces réformes dans de bonnes conditions.
Ce mardi 5 septembre, le Conseil des ministres a adopté un avant-projet de loi portant modification des articles 52, 59 et 60 de la Constitution togolaise. Ces articles concernent en particulier la limitation des mandats et le mode de scrutin. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, les retombées non seulement pour le Kenya, mais aussi pour toute l'Afrique, du verdict historique de la Cour suprême kenyane qui a annulé la réélection d'Uhuru Kenyatta pour irrégularité. Les juges kenyans ont-ils ainsi prouvé leur totale indépendance du pouvoir politique? Peut-on imaginer pareil jugement dans d'autres pays africains où les élections sont contestées? Dans quelles conditions le nouveau scrutin va-t-il se tenir au Kenya? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le polémiste français d'origine béninoise, Kémi Séba, qui avait brûlé publiquement le mois dernier un billet de 5000 francs CFA pour protester contre la France-Afrique, a fait l'objet hier d'une décision d'expulsion du Sénégal pour menace grave à l'ordre public, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Les associations sénégalaises de défense des droits de l'homme ont dénoncé cette décision surprise. Claire Morin-Gibourg a joint le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama.
Ah oui, nous avons été très très surpris de cette décision, surtout qu'après que la justice sénégalaise ait relaxé Kémi Séba du délit de destruction des billets de banque, nous pensions que cette décision de justice allait conforter son établissement au Sénégal, surtout les activités pacifiques qu'il mène en faveur du retrait des pays africains du franc CFA. Il ne fait qu'exprimer ses opinions. Ses opinions ne sont contraires aux intérêts d'aucun pays de la sous-région, puisque la CEDEAO elle-même a programmé d'enlever une monnaie unique en 2020, une monnaie autre que le franc CFA. Donc nous estimons que son combat n'est pas contraire aux intérêts d'aucun État africain. et le menace la sécurité d'aucun État africain, ni celle du Sénégal, pour qu'ils soient expulsés. En outre, évidemment, le gouvernement, comme d'habitude, ne respecte pas les délais qui sont prévus par le décret de 1971, qui prévoit que les personnes visées par un arrêté d'expulsion doivent avoir suffisamment de temps pour pouvoir introduire des recours auprès de la Cour suprême. Malheureusement, à chaque fois, les notifications étaient faites au dernier moment, laissant pratiquement pas de temps aux personnes pour faire le recours prévu par le décret de 1971. Et c'est là que nous dénonçons. L'État viole le droit au recours des personnes qui sont expulsées en ne laissant pas le temps d'introduire le recours qui sont prévus devant les juridictions sénégalaises.
Quelles sont les raisons de cette expulsion express pour vous?
C'est une décision politique. Vous savez que le parquet a fait appel de la décision du tribunal correctionnel de Dakar qui a versé Kémi Séba. Ils ont fait appel. Donc Kémi Séba est toujours sous le coup d'une procédure au Sénégal pour destruction de ses billets de banque. Et ce procédure en appel doit avoir lieu. Et pour que cette procédure soit équitable, il faut que Kémi Séba soit là pour se défendre en même temps que ses avocats. Donc l'expulser pendant qu'il y a une procédure en cours contre lui est également assez problématique. C'est une précipitation qui n'est motivée que par des considérations politiques. Ils l'ont d'ailleurs dit. Les déclarations de Kémi Séba gênent certains chefs d'État en Afrique. Et donc, pour cela, il faut qu'il quitte le pays.
C'est quand même une personnalité assez controversée.
Absolument. En tant qu'organisation de droits humains, nous ne partageons pas son combat. Nous ne sommes pas dans son combat contre le franc CFA. Ça ne fait pas partie de notre mission. Ce que nous voulons, c'est que ces droits soient respectés. La liberté d'opinion soit respectée. Et surtout ces droits, lorsqu'on décide de l'expulser, soient respectés.
Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le Tchad, confronté à la chute des cours du pétrole, tente d'attirer les investisseurs. Une table ronde de 3 jours s'est ouverte hier à Paris en présence du président Idriss Déby Itno. Cette table ronde regroupe le gouvernement tchadien et ses partenaires pour mobiliser les fonds de financement du plan national de développement. Selon notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar, cette table ronde est loin de faire l'unanimité.
Cette rencontre vise à séduire les principaux bailleurs de fonds à mobiliser environ 4 milliards de dollars afin de donner une bouffée d'oxygène aux finances publiques à travers le financement du Plan national de développement 2017-2021. Une rencontre qui soulève une vive réaction à N'Djamena comme à Paris. Au niveau national, la CODAC, coordination de l'opposition démocratique pour l'alternance et le changement, estime qu'il y a une utopie autour de ce projet. Baymong Ndombay Brice en est le porte-parole.
Il ne s'agira pas de dons, mais de prêts. Le pouvoir a donc tort de ne pas l'expliquer clairement à son peuple, laissant planer l'illusion qu'il va s'agir donc de l'argent frais que certains habitués rêvent déjà d'empocher. Ces prêts, s'ils sont mal utilisés comme d'habitude, devront être remboursés par les générations futures.
Or, à la veille de cette table ronde, le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, Guito Yambaï, rassure les Tchadiens en ces termes.
Nous avons tiré des leçons de toutes les pratiques de notre pays par le passé et nous avons changé de méthode de travail. C'est pour cela que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons pu produire un document politique de long terme et la manière dont nous organisons la table ronde de Paris, elle est différente.
Ce mea culpa ne convainc pas le mouvement citoyen, le pacte, projet pour une alternance crédible au Tchad et la plateforme citoyenne de revendication basée à Paris en France. Ils organisent conjointement ce 6 septembre à Paris, en marge de cette table ronde, une alterconférence pour dénoncer l'appui continu de la communauté internationale au régime de Déby. Abdelkrim Yacoub Koundougoumi est le coordonnateur du pacte.
La priorité aujourd'hui, c'est de régler la question de la légitimité du pouvoir en place au Tchad. Le Tchad a bénéficié 2 fois du plan national de développement. Personne n'a fait le bilan. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont géré cette manne pétrolière de 13 milliards reviennent pour la 3e fois demander de l'aide. Non, il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête.
Le président de l'Union des jeunes pour le renouveau, Miarim Dila Evariste, un organe de l'UNDR, Union nationale pour le développement et le renouveau, que dirige Saleh Kebzabo, chef de l'opposition tchadienne, s'en est pris à l'ambassade de France au Tchad qui a refusé de donner le visa à un membre de l'opposition tchadienne annoncé pour cette alterconférence de Paris.
Il est désormais clair que la racine des maux du peuple tchadien se trouve à Paris. C'est pourquoi, pour traduire en acte le désaccord de la jeunesse tchadienne vis-à-vis de la politique française au Tchad, des actions fortes vont être posées à compter d'aujourd'hui jusqu'à ce que la France revoie sa politique au Tchad.
André Kodmadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Ici aux États-Unis, 15 États et le district de Columbia, c'est-à-dire la capitale Washington, ont intenté une action justicière pour bloquer la décision du président Donald Trump de mettre fin au programme DACA qui protège des jeunes immigrants menacés d'expulsion. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint le professeur Soleiman Béchir Diagne de l'Université Columbia à New York.
J'espère que cette action en justice va permettre quand même de revenir à des dispositions qui seraient davantage conformes à un sentiment de justice naturelle pour ceux qui se trouvent victimes d'une situation qu'ils n'ont pas choisie. Mais maintenant, évidemment, il faut se demander ce que va être exactement l'argument qui va emporter la décision juridique.
Alors justement, les opposants au programme estiment que le programme donc DACA est un abus inconstitutionnel du pouvoir exécutif. Et notamment, le procureur général de l'État de Washington a déclaré que l'action contrevient au droit de procédure régulière des immigrants. Dans votre milieu, est-ce que l'on se penche vraiment sur la question légale, à savoir si on va arriver à quelque chose de satisfaisant?
Justement, mon milieu, le milieu universitaire dans lequel je vis, est un milieu directement touché par cette mesure-là. Beaucoup de ces jeunes, justement, ce que leur permettait de faire le programme DACA, c'était de s'inscrire dans les universités et beaucoup d'entre eux se sont inscrits dans les meilleures universités possibles. Nous, à Columbia, nous en avons. À Harvard, ils en ont. Et donc, évidemment, les universités elles-mêmes sont en train de se mobiliser et de regarder tous les aspects légaux qui leur permettraient de s'opposer à cette mesure, de faire en sorte que leurs étudiants n'en souffrent pas.
Vous-même, vous en connaissez certains, justement, des étudiants qui sont dans ce cas-là et qui vous ont fait part de leurs inquiétudes?
Il y a quelques mois, un étudiant me demandait de faire une lettre de recommandation pour qu'il puisse continuer ses études doctorales dans une grande université. Donc je connais effectivement un étudiant qui est dans cette situation-là.
Le Congrès a maintenant six mois finalement pour prendre une décision aussi sur cette question de l'immigration qui a longtemps divisé la classe politique américaine. Est-ce que ceci ne pourrait pas être une opportunité pour parvenir à vraiment légaliser une bonne fois pour toutes tous ces jeunes du programme DACA?
Ce serait vraiment l'idéal. Alors, il serait préférable que républicains et démocrates se rendent compte qu'il va falloir un esprit de dépassement des clivages politiques. Et à ce moment-là, ça pourrait aller vite et on pourrait avoir une politique globale de l'immigration. Ou alors, on se dit que le plus urgent, c'est de mettre fin à cette situation où se trouvent aujourd'hui près de 800 000 jeunes concernés par le programme DACA, et ensuite se donner le temps, peut-être au-delà de ces six mois, de réfléchir à une politique générale de l'immigration.
C'était le professeur Soleiman Béchir Diagne de l'Université Columbia à New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite. Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.